Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La déclaration commune du pape François et du grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayeb à Abu Dhabi. La feuille de route de Khaled Bencher, nouveau président de la Fondation de l'Islam de France sur fond de polémique à propos du port du voile. L'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui plaide au collège des Bernardins pour une théologie musulmane de l'apaisement et puis sorti chez Albin Michel du livre « Les Juifs dans le Coran » du chercheur et universitaire israélien Meir Baracher. Donc on le voit, une semaine très riche. On ouvre avec le voyage du pape François à Abu Dhabi, voyage marqué mardi par une grande messe qui a rassemblé 135 000 personnes, alors que dans les Émirats Arabes Unis, la pratique du culte chrétien autorisé doit se faire généralement sans ostentation. Et puis cette déclaration commune signée la veille, lundi soir, donc entre le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Une longue déclaration qui condamne la violence au nom de la religion, mais on retiendra le passage sur la liberté de croire et la question de la pleine citoyenneté pour les minorités religieuses, une question essentielle au Proche-Orient. Ce n'est pas la première fois que les deux autorités religieuses se rencontrent. Le pape François est allé en effet au Caire à Al-Azhar en avril 2017, mais signé à deux mains aux Émirats Arabes Unis dans la péninsule arabique, à 300 km de l'Arabie Saoudite voisine. Cette déclaration mérite que l'on s'y arrête. Avec nous en ligne, le père Laurent Stalabourdillon, en charge pour le diocèse de Paris des relations avec les médias. Père Laurent Stalabourdillon, bonjour. Vous avez suivi ce voyage, vous avez publié une tribune dans laquelle vous rappelez qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui vient de se passer à Abu Dhabi.
Oui, je pense que cet événement est tout à fait historique parce qu'il dénote un courage extraordinaire de deux grandes figures religieuses de notre époque, le pape François et l'imam d'Al-Azhar au Caire, qui ont été capables d'un acte de rencontre fraternelle, c'est-à-dire être capables de se poser, de se présenter à la face du monde comme deux frères croyants. Et donc de dépasser ce qui peut diviser aux yeux du monde, ce qui peut apparaître comme une division dans l'humanité. Ils assument cette séparation de croyances, mais en même temps, ils se retrouvent à un niveau extrêmement important dans les relations humaines et au fond internationales, c'est leur commune humanité. Et donc ils sont capables de se dire de croyants de deux confessions différentes, mais en même temps unis dans le fait qu'ils soient croyants, et par là ils peuvent s'appeler des frères. Et je crois que c'est un acte extrêmement courageux parce que ça dénote une volonté nécessaire aujourd'hui de nouer des relations et de montrer que les croyants doivent être unis dans leur foi en Dieu, dans leur relation à Dieu.
Un engagement effectivement en plus prononcé dans une zone du monde où la question de la liberté religieuse est problématique.
Oui, certainement. Mais justement, je pense que ce que le pape François essaye de montrer, c'est qu'on ne peut avancer et aider probablement. Je pense que ça, il a une très forte conscience de ce que l'islam est attrapé par une forme de radicalisation qui le mine de l'intérieur, et que l'islam ne peut pas s'en sortir tout seul si un autre croyant ne s'approche pas de lui pour l'aider, pour lui parler de Dieu, et pour commencer et initier avec lui un dialogue fraternel à partir duquel l'autre croyant peut être aidé. Et donc je pense qu'il met en acte de façon extrêmement simple ce qu'est pour lui le cœur de sa propre foi, c'est-à-dire d'entrer en relation et de se faire ami de tout homme.
Comme la rencontre avec le sultan il y a 8 siècles.
Hein. Exactement. Alors on peut dire que François, d'une certaine façon, assume l'héritage du nom qu'il porte. Il ne rejoue pas l'histoire, mais il me semble qu'il est en train de créer les conditions de possibilité d'un avenir pacifié et paisible. Et là où je pense que François est extrêmement fort, c'est qu'il connaît le poids de l'image. Bien sûr que l'imam d'Al-Azhar au Caire n'engage que lui d'une certaine façon, et puis on peut lui renvoyer cela, mais en même temps il sait que cette image, elle restera dans l'histoire, que cette rencontre restera dans l'histoire, et c'est la raison pour laquelle je pense que ce texte, même s'il n'est pas parfait, cette déclaration commune, même si elle peut être perfectible, est vraiment un jalon ou une borne posée dans l'histoire que les nations, les responsables politiques et les responsables religieux auront tout intérêt à étudier et à faire travailler à leurs fidèles.
Je vous remercie Père Laurent Stalabourdillon. Donc je rappelle que vous êtes en charge pour le diocèse de Paris des relations avec les médias. Merci.
C'est que plus jamais le vocable islam ne soit synonyme d'épouvant. C'est que plus jamais la question islamique dans notre pays ne soit problématique. C'est tout simplement qu'on est là dans le pacte civique d'amitié, de fraternité, que ça soit la règle pour nous dans notre nation.
C'est sur un ton incantatoire que Ghaleb Bencher, le nouveau président de la Fondation de l'Islam de France, la FIF, a ouvert le 31 janvier dernier son discours de vœux devant un parterre bien fourni des représentants du monde musulman. Créé en 2016, un an après les attentats de novembre 2015, à l'initiative de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur et des Cultes, cette fondation laïque a d'abord eu comme président l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement. C'est un intellectuel et un islamologue de renom qui préside à présent cette fondation dont la devise est « Nos cultures en héritage, la République en partage ». Une institution donc à vocation culturelle, éducative et sociale, une feuille de route que Ghaleb Bencher entend énergiquement tenir.
C'est d'abord ce souci scrupuleux d'aider, et c'est un gros effort, un effort considérable au niveau financier, les étudiants en islamologie. Nous avons besoin dans notre pays d'une islamologie savante. Alors il y a certains qui m'ont dit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire islamologie. Ben, l'étymologie du mot doit renseigner. C'est tenir un discours rationnel et intelligent sur le fait islamique. C'est essayer de comprendre la chose islamique. Ce n'est pas de la théologie uniquement. Ici, nous nous occupons de culture, de connaissances, d'éducation, de civilisation. La deuxième chose, nous formons aussi les imams, les liturges, les ministres du culte, les aumôniers pour la partie dite profane. La formation cultuelle doit être bien assurée et à côté de cela, nous avons besoin aussi d'imams formés dans les SHS, les sciences de l'homme et de la société. Il faut qu'ils connaissent l'histoire de leur pays. Il faut qu'ils maîtrise l'héritage français.
Les colloques et universités itinérantes du savoir, le développement de la culture du débat, sont également à l'agenda de Ghaleb Bencher. On l'écoute.
Nous voulons nous approprier la parole sur le fait islamique dans notre pays et nous ne le laisserons pas à des aventuriers ou à des ignares. Le vocabulaire islamo-délinquant, islamo-fasciste, islamo-gauchiste, islamo-terroriste, ça doit être fini. Et c'est ce qui nous incombe maintenant. Et c'est ce que nous devons faire. Donc les colloques nationaux et internationaux porteront aussi sur des sujets majeurs que sont la liberté de conscience, l'égalité foncière et fondamentale, ontologique et juridique entre les êtres, la désacralisation de la violence, l'autonomie de l'acquisition du savoir par rapport aux lectures confessantes. Nous n'avons pas de frilosité à aborder ces questions, pour peu que nous le fassions avec rigueur. Nous allons faire un tour de France de la fraternité, de l'intelligence et du débat, pour exorciser les hantises, pour apprivoiser les peurs. Allez, si je devais être prosaïque, c'est pour crever l'abcès. Qu'est-ce qui ne va pas ? Parlons-en.
La feuille de route très pertinente de Ghaleb Bencher a été éclipsée par la polémique qu'ont suscité ses propos sur le port du voile dans une interview donnée à l'hebdomadaire Marianne, dans laquelle il disait qu'il voyait dans le voile une atteinte à la dignité humaine. Interpellé dans la salle au moment des questions, Ghaleb Bencher a répondu sans détour dans une envolée lyrique et passionnée.
Le premier point, j'ai le profond respect, scrupuleux, la tendresse, l'amitié, et si elles me le permettent, l'affection et l'amour des femmes musulmanes ici présentes qui pensent qu'elles doivent médiatiser leur relation à Dieu et leur spiritualité par le voile ou le hijab. Je ne m'autoriserai jamais à dire à l'une ou à l'autre « tu te voiles ou tu ne te voiles pas » parce que ce serait une violation de la conscience de l'une ou l'autre. Je ne me le permettrai jamais. Le deuxième point, ma conviction profonde comme homme et comme homme de foi, c'est que cette affaire-là n'est pas si nécessaire pour compromettre et la scolarité et le travail. Parce que je rêve de voir mes compatriotes corréligionnaires femmes dans la haute administration.
Je rêve de les voir directrices de centres hospitalo-universitaires. Je rêve de les voir rectrices d'académies. Je rêve de les voir conduire la diplomatie française. Je rêve de les voir ambassadrices. Je rêve de les voir préfète de la République. Alors on me dira, oui, mais c'est la société qui porte un regard sur elle. Eh bien, de mon point de vue, ce n'est pas si nécessaire. De mon point de vue, je ne relativise qu'à ma petite personne, ce n'est pas si nécessaire pour compromettre l'avenir, le bonheur, l'épanouissement de nos corrélégionnaires femmes. S'il y a une raison pour laquelle la Fondation existe, c'est pour que nous puissions avoir des débats. J'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, depuis les histoires des fillettes à peine nubiles qu'on a emmitouflées à Creil, sous prétexte que le commandeur des croyants au Maroc dit qu'il faut respecter le voile, alors qu'aucune femme de sa famille n'est voilée. Et ça a commencé comme ça. Et si on avait la sagesse à ce moment-là, si on avait la sagesse de dire non, les injonctions nombreuses et impérieuses dans la révélation coranique quant à l'acquisition du savoir ne sont pas le fait de d'emmitoufler des fillettes. Nous ne serions pas arrivés à ça. Et on ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux pas dire que la Fondation doit prendre position là-dessus, c'est pas son rôle. Je dis simplement que ce qui me paraît être important, c'est le fait de voir quel est le plus important. On me dit, mais c'est dans la référence scripturaire coranique, c'est dans le Coran. Très bien. Il y a aussi qu'il faut couper la main du voleur dans le Coran. On ne la coupe plus, sinon c'est de la barbarie. On applique une chose, on n'applique pas une autre. Qu'est-ce que c'est que ce choix sélectif de l'observance de la norme religieuse? Voilà, je dis ce que je pense être juste de dire, rien d'autre. Ouvrons des débats. Trouvons les espaces du discernement, de l'intelligence, de la confrontation des idées. Ouvrons ça et on trouvera sûrement des solutions.
Les réactions n'ont pas manqué de se faire entendre. L'UMF, l'Union des mosquées de France, malgré les regrets exprimés par Raleb Bencher, exige des excuses officielles pour ce qu'elle appelle un dérapage choquant et une contre-vérité par rapport au rôle réel du roi Hassan II dans le dénouement de l'affaire du foulard de Creil en 1989. Tandis que de son côté, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a rappelé dans un communiqué que le port du voile était une prescription coranique, tout en affirmant son soutien aux femmes qui ne le portent pas.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Au Collège des Bernardins, fin janvier, dans le cadre des Mardis des Bernardins, soirée de réflexion ouverte au grand public sur les thèmes de société, s'est tenu un débat entre le journaliste Philippe Val, ancien directeur du journal satirique Charlie Hebdo, et l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, sur le thème « Dialoguer pour prévenir la violence ». En avril 2018, Philippe Val signait un manifeste collectif contre le nouvel antisémitisme, manifeste qui demandait que soit frappé d'obsolescence les versets du Coran appelant au châtiment, voire au meurtre, des juifs et des chrétiens. De son côté, l'imam de Bordeaux publiait ce même printemps « Nous, imams indignés ». Et c'est le projet Montesquieu, créé il y a 6 ans au sein du Collège des Bernardins, qui a organisé ce débat en public une première. En effet, le projet Montesquieu existe depuis 6 ans. Il réunit chrétiens, juifs, musulmans et humanistes n'appartenant pas à la sphère religieuse, et cela pour des débats sur des questions d'actualité. On écoute un des fondateurs du projet Montesquieu, Michel de Virville, qui fut le premier directeur du Collège des Bernardins.
Ce qui nous a réunis initialement, c'est vraiment la conviction qu'il fallait que nos foies, nos croyances, nos convictions, on puisse les mettre au service de la cohésion, du lien social, qui est d'autant plus précieux que c'est quelque chose de fragile et qui a besoin d'être nourri. Alors, nourrir la conviction, nous sommes aussi tous unis dans une vision laïque de la situation. Donc, il s'agit de nourrir le lien social. Il ne s'agit évidemment pas de réduire la neutralité, la distance qui doit caractériser le pouvoir politique. Mais il y a une condition pour que ce travail en commun puisse se faire, parce que c'est un vrai travail de la raison et du débat. Il y a une condition, c'est que aucun d'entre nous ne pense qu'il est propriétaire de la vérité, évidemment encore moins de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce qu'il y a un vrai travail à faire. On ne fait pas simplement des échanges entre religions, on travaille ensemble. On travaille ensemble sur des questions qui sont des questions difficiles. où les échanges doivent être forts, où ce que pense l'autre n'est pas ce que je pense, et où je découvre la force de ce que je pense en mesurant la distance qui le sépare de ce que pense l'autre. Et donc ce travail, on le poursuit depuis 6 ans.
Depuis 6 ans, mais cela dit, ça n'était pas public. Vous vous êtes tenu à l'abri des médias.
Non, pas, on ne s'est pas tenu à l'abri des médias, mais on n'avait pas trouvé l'organisation pour partager. Et donc ce soir, on a décidé pour la première fois de partager de la façon la plus simple qui soit. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on organise une séance de Montesquieu, mais en public.
Au cours de ce débat, Tariq Oubrou, l'imam de Bordeaux, bien connu pour ses travaux d'adaptation de la loi au contexte français, a développé dans son échange avec le journaliste Philippe Val la théologie de l'apaisement.
Déjà, c'est un aspect fondamental parce qu'au départ, la religion est venue pour apaiser l'être humain afin d'affronter l'angoisse de l'existence. La religion, c'est l'espérance. Et donc, il faut que la parole religieuse aujourd'hui musulmane, plus que jamais, doit être une parole d'apaisement, surtout dans une société crispée, qui est en crise économique, crise politique, etc. Donc, d'une manière fondamentale, l'islam doit être déjà théologiquement une religion d'apaisement, aujourd'hui plus que jamais. Donc, effectivement, je ne fais que recycler une théologie fondamentale pour pouvoir l'appliquer au contexte français actuel, où il y a les tensions de toutes parts, la violence, parce que les musulmans eux-mêmes sont angoissés, ils ne sont pas apaisés. Donc il faut une parole qui apaise déjà le musulman, qui le désangoisse d'une certaine manière, afin de lui permettre d'apaiser les autres également. Parce que la violence commence déjà dans la pensée, dans l'esprit du croyant, et qui se répercute négativement sur la société. Donc oui, j'œuvre pour une théologie de l'apaisement qui passe par une visibilité discrète, qui passe également par une théologie de l'altérité, comment introduire l'autre dans mon éthique, parce que l'islam est né triomphant, impérial, dominant, il parlait avec lui-même, avec les musulmans, il parlait avec le chrétien et le juif en tant que minorité. Aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge, on est dans une configuration politique de l'État-nation, où il y a le citoyen, la société, où il y a l'autre qui n'est pas forcément musulman. Donc il faut apprendre à vivre la transcendance avec la divinité en intégrant l'autre qui n'est pas forcément musulman.
Alors précisément, vous dites aux jeunes musulmans, enfin manifestement c'est aux jeunes musulmans auxquels vous vous adressez, de finalement de cesser de jouer avec le droit à, j'ai le droit à, etc., pour être effectivement dans une moins grande... Alors, peut-être ça pourra choquer un certain de vos coreligionnaires, dans une moins grande visibilité, dans une moins grande quête de visibilité.
Non, je pense que l'islam responsabilise l'individu. L'individu est responsable de son destin. Il faut qu'il se prenne en charge. Il ne faut pas attendre les droits. Il faut assumer ses devoirs. D'abord, le fait d'être dans une théologie victimaire, en train de pleurnicher, etc., c'est indigne d'un croyant. Le propre de la foi, c'est le don. Donc le musulman, il faut qu'il partage, qu'il donne. Avant de revendiquer les droits, il faut qu'il assume ses devoirs. Donc c'est banal ce que je dis aux musulmans. D'abord, je commence par les imams qui doivent changer leur discours, parce que le changement commence d'abord par les émetteurs du discours, c'est-à-dire les imams, les prédicateurs, les intellectuels les musulmans. Au lieu d'engager les musulmans dans un rapport de force avec la société, une logique de revendication, de victimisation, il faut se débarrasser de ces prédicateurs de la revendication à des prédicateurs de l'apaisement et de l'intégration.
Où en êtes-vous dans ce grand chantier de l'islam que le président Macron avait mis en route à l'automne dernier? Bon, maintenant probablement un petit peu entre parenthèses avec la crise des Gilets jaunes. Où en êtes-vous dans ce grand chantier?
Je suis engagé d'une certaine façon avec le projet de Hakim Al-Qaroui sur la MIF, mais également je milite également pour une autorité religieuse indépendante, le Conseil national des imams de France, constitué uniquement d'imams, parce que quand même, il y a le CFCM qui s'occupe de la gestion temporelle du culte, il y a la MIF qui a aspiration à financer le culte, mais où sont les ministres du culte? Il faut qu'ils aient une visibilité dans cet édifice de représentativité.
Bon, vous êtes un gilet jaune des imams, quoi.
gilet vert.
Et cette soirée sur le dialogue pour prévenir la violence d'inspiration religieuse s'est naturellement inscrite dans le contexte plus large de la crise sociale que vient de traverser la France. Ce fut le propos de Jean-Paul Delevoye, ancien ministre, haut commissaire à la réforme des retraites et membre du groupe Montesquieu du Collège des Bernardins. Il n'a pas caché son inquiétude.
Je suis préoccupé parce qu'effectivement nous sommes dans une période de crise, mais qui est révélateur peut-être de mouvements que nous n'avons pas suffisamment analysé ou pris en compte. Je suis frappé de voir que dans notre société occidentalisée, brutalement, cette perception du futur qui permettait aux hommes et aux femmes de vivre au quotidien avec des efforts ou des sacrifices, cette notion de futur a disparu et l'isolement, l'angoisse d'un grand nombre de nos concitoyens occidentaux, d'ailleurs pas uniquement français, c'est de se sentir de plus en plus avec un avenir qui va se dégrader. Et donc, il y a une angoisse.
C'est vous, l'homme en charge des retraites, qui évoquez cela?
Oui, parce qu'en réalité, l'homme a un impérieux besoin de croire. Et lorsqu'on ne croit pas au futur, qu'on fait ressaigner les cicatrices du passé, on est dans la surconsommation du présent. Et ce que j'assiste aujourd'hui dans cette éruption citoyenne, c'est une confrontation. Avant, il y avait des confrontations collectives par des idéologies collectives. Aujourd'hui, nous sommes dans des confrontations individuelles sur des problèmes de survie du quotidien. Et il faut être attentif que s'il y a aujourd'hui une interrogation, c'est comment ce libéralisme ultra a pu favoriser les plus belles réussites technologiques et les plus grandes fortunes, mais est en train de créer la désespérance des individus qui sont dans une souffrance du quotidien. Et cette problématique doit nous interpeller. Nous allons devoir aujourd'hui, au moment où toutes les questions de caractère éthique, de caractère moral, de fragilité de la nature, de fragilité de l'humain sont devant nous, comment stabiliser des décisions politiques dans un océan de populations de plus en plus instables, de plus en plus éruptives, de plus en plus fragiles. Et comme nous sommes en train de basculer sur la dictature des émotions, comment permettre de se construire des convictions? Nous sommes à la veille d'esclavage moderne où nos concitoyens et nous-mêmes pouvons être prisonniers d'émotions fabriquées par les autres. Comment le donner du temps, du recul, du sens critique, des parcours éducatifs pour que chacun reste libre parce qu'il aura choisi ses convictions et sera responsable d'elle-même? Et c'est quelque chose de fascinant ce à quoi nous assistons. Les nations ne meurent pas mais elles peuvent se suicider. Et dans cette radicalisation des rapports à l'autre, on voit bien monter cette violence par rapport à l'autre. On voit bien, même au nom de la liberté d'expression que je veux défendre, je vais pouvoir revendiquer ma liberté individuelle d'agresser de façon presque violente celui qui écrit contre moi, ne pense pas contre moi et ose même afficher qu'il a des convictions contraires aux miennes. Et nous sommes là dans un questionnement qui interpelle les politiques, les religieux, les associatifs, tout ce qui fait société. Comment faire en sorte que nous puissions retrouver des phases d'apaisement par le dialogue qui nécessite le respect de l'autre pour construire éventuellement un chemin vers le commun.
Jean-Paul Delevoye, ancien ministre et haut commissaire à la réforme des retraites.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Les Juifs dans le Coran, épineux sujet alors qu'a été dénoncé, notamment en France, par des intellectuels la montée d'un nouvel antisémitisme. C'est le titre du livre publié chez Albin Michel du chercheur et universitaire israélien Meir Baracher, philologue, ancien directeur du département de langue et littérature arabe à l'université hébraïque de Jérusalem. Sur cette question brûlante, il apporte le regard dépassionné et distancié du chercheur, soucieux de sortir des préjugés et jugements tout faits des uns et des autres, sans rien masquer pour autant des aspects problématiques. Meir Baracher commence son essai par la présence juive très ancienne dans la péninsule arabique, des siècles avant l'arrivée de l'islam, les points de contact entre les fils d'Israël non donnés alors aux juifs et les nouveaux croyants de l'islam vont expliquer l'influence juive dans les textes et la tradition islamique. On écoute Meir Baracher.
Quand Mohammed apparaît avec sa nouvelle religion, ça commence pas de nul, ça commence d'une existence et quand il arrive à l'endroit où il est entouré par des monothéistes, des juifs et des chrétiens dans ces régions. et même déjà à la Mecque, même avant l'émigration, l'égir, l'émigration de Mohammed avec ses adeptes à Médine en 622, déjà au commencement de sa mission prophétique qui commence à 610 jusqu'à 622, et lorsqu'il se trouvait encore dans sa ville natale de la Mecque, il rencontrait des Juifs venant à la Mecque pour faire de commerce, et sans ces rencontres avec les Juifs, on ne peut pas comprendre les composantes très marquantes et juives qu'on trouve dans le Coran.
Vous soulignez d'ailleurs, Meir Baracher, qu'il y a une maison d'études dans laquelle un des conseillers du prophète Mahomet a étudié, une maison d'études juive.
Oui, tout à fait. Dans les sources arabes, on nous parle de ce qu'il disait, ce qu'il appelle en arabe « Bayt el-Midrash », c'est une maison qui est tout à fait l'équivalent de ce qu'on dit en hébreu « Bet ha-Midrash », qui sera une école d'études juives, un peu comme nous avons dans les diasporas plus tard ce qu'on appelle « Yeshiva », c'est-à-dire une école pour les études de la Bible, de Talmud, etc. Donc ça existait, et dans ce terme-là, ça apparaît dans les sources arabes. Et puis, les musulmans avaient des rapports avec des juifs venant de ce Beit HaMidrash. Et même parmi ces musulmans, la nouvelle génération de musulmans contenait aussi des juifs convertis à l'islam et qui étaient, si vous voulez, les premiers enseignants de Mohammed, de l'héritage juif. Et ces juifs convertis à l'islam, dans la première génération, c'est eux qui ont été les responsables d'une littérature immense que la littérature arabe islamique appelle Israïliyat. Israïliyat, vous reconnaissez tout de suite que ça vient du mot Israël, c'est-à-dire des traditions, des dires, des développements midrashiques qui ont été transmises par ces juifs vers l'islam. Ils étaient traduits de l'hébreu ou l'araméen vers l'arabe, en arabe, et c'est devenu un fondement substantiel, important, très important, pour la création de cette nouvelle religion. Donc on trouve énormément des éléments juifs, et dans le Coran, et dans la littérature post-coranique, qui sont, aucun doute, les résultats de ce contact que Mohammed avait avec les juifs. Il ne faut pas oublier que l'islam, il est en train, dans cette étape-là, de construire ses fondements. Donc il a besoin d'être nourri par ses deux sœurs, si vous voulez, le judaïsme, le christianisme. Donc on voit, dans les Israélites, on voit non seulement des dires qui viennent de Talmud, mais aussi quelques dires de Jésus dans les évangiles qui sont traduits en arabe, qui sont sous forme d'Israéliat.
Vous voulez dire aussi que ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les faits et gestes du prophète qui sont transmis, cette littérature s'inspire d'une tradition juive.
Oui, elle s'inspire énormément de judaïsme et de christianisme, mais aussi, évidemment, des traditions anti-islamiques païens qui vont être islamisées par le Mohammed et ses adeptes. Mais non, aucun doute, l'élément juif et l'élément chrétien jouent un rôle très important.
Par exemple, oui.
Par exemple, quand le Coran nous raconte l'histoire de Caïn et Abel, qui ne sont pas mentionnés par nom dans le Coran n'a pas l'habitude de donner le nom des héros, il reste sans nom. Donc, il nous raconte l'histoire, et tout d'un coup, et après qu'un fils d'Adam tue l'autre fils, sans avoir des noms spécifiques, le Coran dit quelque chose de remarquable. Il dit, celui qui tue quelqu'un, c'est comme il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve quelqu'un, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. Alors, quand vous allez lire l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible, vous ne trouvez pas ce dire. Il y a l'histoire de haine qu'il y a entre eux, de la tension qu'il y a, et ça finit par l'assassinat de Abel par son frère Caïn, sans donner un jugement moral, qu'est-ce que ça veut dire tuer quelqu'un ou sauver quelqu'un. Le Coran ajoute cette chose-là. Et quand on regarde de près de quelle source ça vient, on trouve immédiatement que dans les développements midrashiques de cette histoire, cette affirmation se trouve dans l'histoire de Caïn et Abel, et elle est développée par tous les commentateurs et juifs. Et si par exemple quelqu'un a l'habitude de lire la Torah avec le commentaire bien fameux et connu de Rashi, le commentaire français médiéval, il va trouver qu'il cite le Midrash avec cet ajout. Donc le Coran, lorsqu'il nous raconte une histoire et un récit soi-disant et biblique, il nous raconte toujours une histoire avec des éléments non bibliques et post-biblique, on peut donner aussi des exemples du christianisme. Le Coran, souvent, il nous re-raconte l'histoire. Il raconte de nouveau l'histoire biblique. Quand le Coran fait cette approche, il intègre dans le récit des éléments post-bibliques, mais de manière intelligente. C'est pas, souvent, on entend que le Coran copie les traditions qui se trouvent dans la Bible ou trouvent dans le Nouveau Testament. C'est pas le cas. On voit qu'il y a ici une science, une sagesse de choix. On examine les éléments venant de ces sources et on décide qu'est-ce qu'on adopte et qu'est-ce qu'on rejette. Et dans le livre, je donne plusieurs des exemples. Quand j'analyse l'histoire de Joseph, de David, et de Salomon, de Caïn et Abel, et bien d'autres, je montre spécifiquement comment ce processus est fait, de manière très intelligente.
C'est ça sur le mode de la sélection, en quelque sorte?
Oui, par mode de sélection, tout à fait. On est tout à fait conscient de quels sont les éléments qu'on veut intégrer, quels sont les éléments qu'on n'a pas besoin pour un lecteur musulman, donc qui sont trop juifs ou trop chrétiens pour être intégrés, donc on les supprime. Mais ça ne se fait pas de manière automatique, ça fait très consciemment, avec beaucoup de prudence et beaucoup d'intelligence.
Une question sur la méthode, sur la méthodologie que vous appliquez ou que les chercheurs appliquent. Quelle méthode employez-vous?
J'emploie les méthodes historico-philologiques. C'est-à-dire, on essaye d'utiliser notre connaissance des langues et des sources anti-islamiques qu'on peut supposer qu'il était à la base du Coran. Mais on a le sens qu'il faut lire des textes et supplémentaires qui sont hors de la Bible, c'est-à-dire le Talmud, le Midrash et les pères des églises syriaques, parce qu'ils jouent un rôle très important, parce que les moyens syriaques sont arrivés, aucun doute, et en Arabie. Donc on voit quelques termes qui sont une réflexion des terminologies syriaques. Donc c'est comme ça que l'idée est venue d'aller vers ces textes, les lire par exemple quand on lit l'histoire de la sacrifice d'Isaac. Alors il y a des éléments qu'on trouve ni dans la Bible, ni dans le Talmud, mais on le trouve chez les pères syriaques. Donc quand on lit les écrits des pères syriaques, on arrive à trouver des éléments qui nous expliquent des détails dans les histoires qui ne sont pas trouvables ni dans la Bible, ni dans les écrits juifs. Donc maintenant nous savons que afin de bien comprendre l'arrière-plan du Coran, l'ambiance dans laquelle linguistique et culturelle dans laquelle il a été composé, il faut aller vers les sources juives et les sources chrétiennes, et tout particulièrement les sources chrétiennes d'origine de l'Église syriaque, et ça nous permet de voir beaucoup plus que nous avons vu avant.
C'est une démarche scientifique. Est-ce qu'elle peut être totalement dénuée de préjugés? Est-ce qu'elle peut être abordée, c'est une question quand même, de façon complètement neutre?
Vous savez, on essaie toujours d'avoir, j'ai essayé dans ce livre d'être aussi objectif que possible, c'est-à-dire montrer les choses telles qu'elles sont avec toute leur complexité. Je n'ai pas essayé ni d'idéaliser, ni de décrire une situation qui est tout à fait noire et sombre, mais d'examiner les choses de manière objective. Mais vous dites, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de chercheurs qui n'appartient pas à cette méthodologie, qui quelquefois il vient aux sources avec une agenda. Et puis il voit dans le texte, ça existe dans toute culture, dans tout le temps, qu'il y a des gens qui viennent au texte, qui font une démarche vers le texte avec leurs préjugés. Et puis il essaie de démontrer à eux-mêmes ce qu'ils ont déjà venu avec.
Oui, manifestement, vous avez voulu montrer avec beaucoup de, je dirais, de distance et de neutralité, enfin, en tout cas ça sent dans ce que vous écrivez, l'extrême complexité en fait de cette étude du Coran au regard des sources juives et chrétiennes.
J'ai essayé le maximum possible d'éviter aucune. D'abord, je n'ai pas une tendance d'un propagandiste, je n'ai pas une approche politique. J'aurais dit que j'ai beaucoup de sympathie vis-à-vis des textes religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens. Je viens avec beaucoup d'intérêt intellectuel et spirituel de les déchiffrer, de les comprendre. J'essaie d'éviter un jugement. Et puis, le jugement que j'ai, je sais que ce soit un jugement scientifique, académique, de montrer les choses telles qu'elles apparaissent dans les textes et pas de les manipuler, de les utiliser pour du but politique. Mais je sais bien qu'il y a d'autres approches vis-à-vis de ces textes-là, et par les chercheurs et par les musulmans eux-mêmes.
C'était une petite clarification effectivement nécessaire pour montrer, Meir Baracher, l'état d'esprit, j'allais dire, de votre travail. Alors, on poursuit justement avec le Coran et les juifs dans le Coran. Alors, très important, la question de l'élection. D'ailleurs, vous accordez pas mal de pages. La question de l'élection, le peuple juif, peuple élu. Pour résumer, le Coran va, voilà, on a laissé entendre que le peuple élu, il a beaucoup failli, donc il est plus vraiment élu, et que finalement, c'est plutôt le peuple musulman qui va devenir un peuple élu. Est-ce que j'ai résumé de façon extrêmement grossière, mais ça correspond à peu près à la réalité?
Oui, ça correspond, parce que vous savez, l'idée de l'élection qui se trouve dans la Bible, qui se trouve à l'Église, chez les chrétiens, qui se trouve dans le Coran, l'Église, et dans toutes ces religions, l'élection va toujours elle est toujours conditionnée. C'est-à-dire, dans chaque religion, quand on est élu, on risque aussi de perdre l'élection. Alors, commençons par le judaïsme qui se considère comme peuple élu, c'est une idée qui est développée dans l'Ancien Testament, et vient le christianisme qui dit, voilà, vous avez perdu votre élection, et c'est nous, les chrétiens, qui sommes le vrai Israël, le verus Israël. Donc ça, c'est une idée claire dans le christianisme. La même démarche est faite par l'islam. L'islam dit très explicitement, dans le Coran, plus qu'une fois, cette idée que le peuple d'Israël, toujours le peuple d'Israël, il ne s'agit pas des juifs. On n'a pas traité la terminologie. Le Coran distingue entre juifs, Yahoud, et entre Banu Israël, le fils d'Israël. Quand il utilise le fils d'Israël, il s'agit des anciens et juifs de l'époque biblique. Quand il parle de Yahoud, donc il parle des juifs tardifs, de l'époque de Mohammed et plus tard, ceux qui s'appellent Yahoud, et le terme Yahoud, il a toujours un sens péjoratif, tandis que le terme fils d'Israël, il a un double sens avec une tendance vers le positif. Donc ceux qui ont été élus, ce n'est pas les Yahoud, les juifs, mais c'est les anciens de Banu Israël, les anciens et fils d'Israël. Mais le Coran dit, juste en parlant de l'élection, l'histoire de l'élection suivie par tous les péchés que les fils d'Israël ont commis pendant l'époque biblique, donc
le veau d'or, l'idolâtrie,
etc., toute une série de péchés, qui sont mentionnés aussi dans la Bible. Il y a rien, le Coran n'invente pas ces péchés, ils sont explicitement mentionnés dans le Coran, dans la Bible, et à ce moment-là, et par ces faits même, ils perdent l'élection. Et c'est une démarche que le Coran fait pour nous préparer qu'il y aura maintenant un nouvel remplacement. Les Arabes vont être eux-mêmes le peuple élu. Donc il y a un autre verset qui parle de l'élection des Arabes ou de la communauté musulmane, un verset très connu, c'est dans la sourate 3, verset 110, qui dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous, c'est-à-dire vous les Arabes, la communauté nouvelle musulmane, vous êtes la meilleure de peuple qui a été mise devant l'humanité. Donc il y a ici la notion de remplacement de l'alliance. Et puis pourquoi c'est fait? Parce que dès qu'on a commis les péchés, dès qu'on n'obéit pas à l'alliance avec Dieu, dès qu'on ne la respecte pas, on risque de perdre. Et ce qui est intéressant, ce qui est frappant, c'est que les commentateurs du Coran disent, alors nous, ne pensez pas que vous êtes protégés, vous les musulmans, ça peut vous arriver également. Vous pouvez perdre ce statut d'être élu si vous n'obéissez pas à l'alliance que Dieu a fait avec vous.
Ça pourrait être un argument pour les islamistes qui commettent des attentats.
Oui, peut-être, oui. Parce qu'il y a une logique d'une élection remplacée. Mais j'aurais dit plus que ça, je dirais plus que ça, que même dans la polémique interne de l'islam, on voit, je traite ça dans le livre, dans le dernier chapitre, que dans le chiisme, il y a cette notion que les vrais choisis, les vrais élus, ce n'est pas tout l'islam, c'est cette minorité de chiites. Donc vous voyez que même à l'intérieur de l'islam, il y a ceux qui disent, voilà, cette notion, elle n'est pas globale, elle n'est pas adressée à tous les musulmans, elle est adressée à cette minorité qui a cette conscience qu'elle est la préférée, elle est l'élu, etc.
Religion du monde, Geneviève Delru.
On poursuit avec vous, Meir Bar Asher, sur ce... Bon, est-ce que le Coran est ou non antisémite? On voit effectivement toute l'ambivalence, la complexité du Coran dans ce domaine, puisqu'il y a des moments où, au contraire, le Coran semble tout à fait plutôt favorable aux Juifs, après, beaucoup moins favorable. Bon, ça, c'est selon les époques, selon les batailles, j'allais presque dire, selon le contexte. Mais vous soulignez aussi que, parmi les reproches qui sont faits aux Juifs dans le Coran, et on en trouve pas mal, il y a celui de « vous avez tué les prophètes ». Hein? Mais là, on voit qu'il y a très nettement l'influence chrétienne et le reproche chrétien qui apparaît.
Tout à fait, oui. On voit clairement que, je peux dire même plus que ça, que presque tous les arguments anti-juifs ou toutes les accusations qui sont adressées dans le Coran contre les juifs sont d'origine non-juive, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine chrétienne, à vrai dire, ou bien païenne. On voit très clairement que le Coran, ce qu'il fait, c'est de recyclage des arguments qui ont été dans l'Antiquité adressé vers les Juifs, soit par les païens, soit par les chrétiens, soit des polémiques internes, par exemple les Samaritains contre les Juifs, soit les proto-caraïtes. Donc c'est tous ces arguments qui sont trouvables dans le Coran, rien n'est inventé. Le Coran, par exemple, cette accusation que les Juifs tuent leurs prophètes, elle se trouve dans les évangiles.
Oui, le peuple déicide, voilà. Oui. Peuple qui a tué Jésus, c'est ça.
Oui, pour,
c'est ça, l'accusation qui va avoir des répercussions catastrophiques.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, je peux ajouter à ça, même cette idée que les commandements ont été donnés, ont été accordés aux Juifs comme une punition, c'est pas par élection que Dieu leur a donné ces 613 commandements qui rendent la vie très chargée.
Un peu compliquée,
tout à fait. Il a fait ça parce que, puisqu'il refusait d'accepter le christianisme, c'est Jésus, donc il ne savait pas comment respecter l'alliance avec Dieu, donc Dieu a opté pour les punir, et c'est une idée qui se trouve chez les pères de l'Église, on la trouve répandue dans l'Antiquité, et puis on la trouve aussi dans le Coran. Et pareil pour l'idée de falsification des Écritures, c'est une idée qui était adressée vers les Juifs par des païens, par des chrétiens, par des samaritains, c'est pas quelque chose de nouvel.
Vous voulez dire donc, quand le Coran dit en clair, les Juifs ont falsifié et les chrétiens ont falsifié les Écritures, c'est une idée ancienne qui est reprise?
Tout à fait. Cette idée de falsification, elle est très présente dans le Coran. Elle est dite plus qu'une fois. « Min al-ladhina hadu yuharrifuna al-kalima al-mawadili » Parmi ceux qui sont devenus juifs, il y a ceux qui, pas tous les juifs, attention dans le Coran, pas tous les juifs, mais il y a parmi eux ceux qui changent les paroles de Dieu de ce qu'il était à l'origine. Donc ça, c'est l'idée de falsification qui est répétitive dans le Coran. Cette idée même n'est pas inventée par les musulmans, ça a été adressé déjà avant l'islam par les chrétiens, par les païens, par les samaritains. C'est une idée très répandue dans l'Antiquité, l'islam la recycle.
Alors, on s'achemine tout doucement, Meir Marachère, vers la fin de l'émission. Alors, on peut dire que les règles, notamment les règles alimentaires, sont extrêmement proches.
Oui, et non seulement les règles alimentaires, mais les règles en général, les lois, l'aspect qu'on peut définir par le terme aspect halakhique, l'aspect de la halakha, ou en arabe de la sharia, c'est-à-dire l'aspect légal, jurisprudence de l'islam, et dans le Coran et dans l'époque encore post-coranique, est très très marquée d'une influence juive. Et j'aurais dit, les deux religions se définissent par être des religions halakhiques, des religions de la loi. Donc, déjà dans cette idée même de l'importance de la loi, il y a une similitude énorme entre les deux religions, mais en plus de ça, quand on entre dans les détails, quand on regarde les lois d'alimentation, les lois alimentaires, quand on regarde les lois de prière, quand on voit les lois de jeûne, les lois de pureté et impureté, tous ces aspects-là, et on peut montrer avec des détails, comme j'ai essayé de montrer dans quelques cas dans mon livre, étaient très influencés par les sources juives, mais en même temps, comme par tout autre sujet que j'ai traité dans le livre, en même temps, à côté de cette influence, il y a aussi un éloignement. Ça commence par une approche de proximité, d'aller vers le judaïsme, d'être influencé par le judaïsme, d'intégrer des éléments juifs dans la formulation de la halakha.
Et s'autonomiser ensuite.
Oui, tout à fait. Et puis plus tard, on s'éloigne, on fait un recul de ces sources et on les modifie de manière de les différencier des parallèles juifs.
Par exemple, vous pensez au choix, par exemple, du vendredi, alors que les juifs, c'est le samedi, le Shabbat, c'est ça? C'est un premier exemple. Que le jeûne qui était très très pratiqué dans la péninsule arabique, même dans le monde païen anti-islamique, eh bien, le monde musulman va choisir essentiellement le mois du Ramadan pour le jeûne. C'est à cela que vous pensez?
Oui, mais pour le vendredi, c'est curieux parce que dans ce cas-là, Quelques chercheurs pensent que le fait que l'islam a opté pour vendredi, c'est pas pour faire éloigner les juifs, mais pour les attirer vers l'islam. C'est-à-dire, afin, d'une telle manière, ils ont la possibilité de se joindre à la prière musulmane et au rite musulman sans renoncer le judaïsme. Donc, il y a une approche positive. Mais dans d'autres cas, par exemple, je vous donnerai un exemple qui est très très connu. Et nous savons que la direction de prière, là où on se dirige dans la prière, joue un rôle très important dans le judaïsme et dans l'islam. Et puis, nous savons très bien qu'au début, lorsqu'il y avait une approche beaucoup plus pro-juive, alors la direction était vers Jérusalem. C'est pour ça que Jérusalem est nommée parmi autres appellations de cette ville. Elle est nommée en arabe « Oulal Qiblatayn », qui veut dire « la première parmi les deux directions ». Donc avant que ce soit la Mecque, c'était Jérusalem. Et puis, lorsqu'il y avait la grande déception de Mohammed de la part de judaïsme, et lorsque, après l'Égypte, après tous ces essais de faire approcher les juifs vers le judaïsme, n'a pas eu beaucoup de succès, c'est comme ça que les commentateurs musulmans comprennent les choses, ils commencent à une étape de recul, et à ce moment-là, on change la Qibla, la direction de prière, qui est, comme nous le savons très bien, à la Mecque. Et c'est-à-dire, ce qui a commencé par proximité vers le judaïsme, approché au judaïsme, se finit par éloignement du judaïsme. On peut voir cette démarche dans beaucoup d'autres cas.
Alors, la question pour aujourd'hui, Meir Baracher, montrer les similitudes, montrer aussi à quel point il faut contextualiser que quand certains s'emparent du Coran pour effectivement commettre des actes agressifs, voire extrêmement violents à l'égard des juifs, combien ils n'arrivent pas à contextualiser ce texte. Que faire avec toutes ces découvertes, ces similitudes que vous mettez en exergue, que bien d'autres avant vous ont mis en exergue aussi, mais là maintenant on voit que ça atteint un plus grand public. Quelles conséquences ? Est-ce que ça peut ouvrir une voie, j'allais dire, de pacification ?
Vous savez, moi je ne sais pas, je ne suis pas un homme politique, et je ne suis pas un propagandiste. Et ce que j'essaie de faire en tant qu'universitaire, c'est d'essayer à enseigner les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, souvent, le grand problème, et je l'entends tout le temps aux médias ou dans les entretiens avec des amis, avec des collègues, partout, ici et ailleurs, on parle sans connaître les choses. On fait des généralisations sans lire un verset du Coran. Ou quelques-uns lisent des versets répétitifs qu'ils trouvent dans Le Monde et dans les journaux, les autres journaux, sans avoir le contexte. Et ce que je fais, j'essaie de présenter les choses telles que je les vois par les textes et voir que les choses ne sont pas aussi simples que les gens pensent. Et ce qui est juste à faire, c'est de mettre les choses dans leur contexte. C'est ça l'effort que je fais. Je pense, en mettant le texte, les expliquant le contexte, j'essaie de rendre service à ceux qui veulent écouter, à ceux qui veulent écouter, parce que la grande majorité de l'humanité ne veulent pas écouter. Vous dites telle chose ou une autre, ça ne change rien, parce que les gens viennent avec leurs préjugés, et puis vous écrivez un livre, vous n'écrivez pas, ça ne change pas aucune chose. Mais pour cette minorité qui est prête à absorber les données et les comprendre avec l'aide de quelqu'un qui les connaît, c'est par apprentissage de plusieurs années, par enseignement de plusieurs années, c'est mon but.
Voilà, vous n'avez pas d'agenda précis, si ce n'est que vous faites votre travail d'historien, de scientifique, et puis tant mieux si ça sert, c'est ça ?
Oui, j'espère que, exactement, je fais mon travail d'historien, de philologue, avec l'espoir que les gens le lisent avec sincérité, afin que une bonne connaissance peut servir comme un pont vers l'autrui.
Meir Baracher, auteur des Juifs dans le Coran, un livre publié chez Albin Michel et préfacé par l'islamologue Mohamed Ali Amir Mouedzi. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru et Olivier Raoul vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.